Radio Capi.
Les journaux, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale appelle les États de la région, la SADC, à accélérer la transformation locale des ressources minières. C'était hier lundi à Durban, en Afrique du Sud, à l'occasion du 46e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Ouverture hier lundi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga de la 5e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. Y prennent part des experts dans les secteurs de la santé de la RDC et ses venus d'Afrique du Sud, de la France et d'ailleurs. L'invité de ce journal est le docteur Ngereza, médecin physicien et encadreur senior aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il nous parle de l'œdème, un gonflement d'un tissu ou d'un organe causé par une accumulation anormale de liquide dans l'espace intercellulaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Réunis hier lundi à Durban, en Afrique du Sud, à l'occasion du 46e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC, les dirigeants d'Afrique australe ont notamment échangé sur la transformation industrielle, la valorisation des minéraux critiques, le financement des infrastructures régionales et la sécurité alimentaire. Intervenant au nom de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a appelé les États de la région à accélérer la transformation locale des ressources minières. Il a plaidé pour une rupture avec un modèle économique principalement axé sur l'extraction et l'exportation des matières premières brutes. Les explications avec Blaise Nongala Mayanda.
Au cours de ses assises, la RDC a réaffirmé son attachement aux valeurs de solidarité et d'intégration de la SADC. À la tribune de ce forum, le vice-premier ministre de la Défense nationale a appelé à une montée en gamme industrielle et à la création de valeurs sur les continents en intégrant les minéraux stratégiques, les terres arables, les potentiels énergétiques et la jeunesse dans les chaînes de valeurs régionales compétitives. Dans cette logique, Guy Kabombo Mwadianvita a mis en avant les atouts des différents minéraux critiques dont regorge la RDC, notamment les cuivres, les cobalts et les capacités énergétiques. Le chef de la délégation congolaise a ainsi affiché l'ambition claire de la RDC, à savoir accroître la transformation locale et bâtir une base industrielle capable de profiter à l'ensemble des États de la SADC dans une démarche de réussite régionale fondée sur la convergence des politiques industrielles. Sur les volets des infrastructures, il a présenté la vision de la RDC axée sur les corridors régionaux conçus comme des outils de développement et non des simples routes d'exportation. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a par ailleurs rappelé l'engagement de Kinshasa dans les processus de Washington et de Doha pour une paix juste et durable dans l'est de la RDC. Et
plus ou moins 600 ex-miliciens Mobondo ont été conduits au service national à Kanyama Kasese, dans la province du Olomami, où ils vont bénéficier de plusieurs formations destinées à faciliter leur insertion sociale au sein de la communauté. Le ministre délégué près, le ministre de la Défense nationale, chargé des anciens combattants, Élisée Ntamboué, a livré ce chiffre hier lundi à Kinshasa, lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias. Il a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la pacification et de la restauration de l'autorité de l'État dans les triangles, les Grands Bandundu, Congo central, Kinshasa. Les propos de Élisée Ntamboué ont été recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Le chef de l'État ne m'a pas confié mission d'aller mettre les gens en prison. La mission que j'ai reçue du commandant suprême, c'est d'aller sensibiliser nos compatriotes qui étaient en brousse, de déposer les armes, de sortir. C'est l'exercice auquel je me suis soumis et la majorité d'entre eux sont avec nous. Le niveau d'insécurité ne manque pas, mais il y a plus de peur que de mal. À Kanyama Kasese, nous avons envoyé 596 personnes et qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en cantonnement dans d'autres villages que nous avons laissés et d'autres encore à Kinshasa. Les armes que nous avons remis au VPM Défense, qui a remis à la logistique de l'armée, c'était 146 armes. Mais je dois souligner ici qu'après cela, il y a d'autres armes que nous avons récupérées qu'on n'a pas encore remis au VPM Défense. Moi, je qualifie ça d'un conflit foncier. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas deux communautés qui se sont affrontées comme ça. Il n'y a pas eu du tout un problème entre les deux communautés. Il y a un problème foncier. C'est comme ça que même des gens pensent que c'est un conflit coutumier. Non, il n'y a rien de coutumier. C'est un conflit foncier.
Et puis, chaque mois, plus de 4 millions de dollars américains sont décaissés par le gouvernement congolais pour appuyer les Wazalendo engagés aux côtés des FARDC sur différents fronts dans l'est de la République démocratique du Congo, affirme le député national Claude Missaré. Mais sur le terrain, plusieurs acteurs s'interrogent sur l'utilisation et l'impact réel de ces fonds. Pour obtenir des éclaircissements, Lely Douvira vient de saisir le ministre de la Défense nationale. Dans une lettre adressée à ce ministre, il demande que toute la lumière soit faite sur la destination et la gestion de ces fonds, notamment sur les mécanismes de prise en charge des combattants Wazalendo présents dans la zone, dans les zones de combat. Claude Missaré a été joint par Ronéline Tibonera Idi Amin.
Les fonds alloués à nos compatriotes Wazalendo dans la rubrique réserve armée de la défense sont décaissés chaque mois par le trésor public, mais les Wazalendo sont dans la misère alors qu'ils se sacrifient pour la patrie. Et donc, c'est de notre droit en tant qu'élus de savoir la manière dont les 4 millions de dollars américains sont utilisés par le ministère de la Défense nationale. Parce que sur le terrain, je l'ai dit, les Wazalendo ne reçoivent rien. Ceux qui placent ou érigent les barrières ça et là, le font parce qu'ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement comme il se doit. Voilà pourquoi il faut appliquer urgemment la loi sur la RAD dans sa globalité, en commençant par l'installation des antennes locales, la nomination de leurs animateurs, puis leur enrôlement officiel dans la réserve armée de la défense, et enfin leur encadrement et prise en charge responsable par le gouvernement congolais.
Ouverture hier lundi à Lubumbashi au Pullman Hotel de la 5e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences Siarou. Thème retenu, urgence vitale, épidémie majeure et technologie innovante. Synergie pour une prise en charge innovante et résiliente face à la résurgence d'Ebola. Des experts dans le secteur de la santé de la RDC et ceux venus d'Afrique du Sud, de la France et d'ailleurs prennent part à ces assises. Le point avec Paul Mounanga.
Plusieurs sujets sont au centre du partage des connaissances et expériences entre les experts dans ce carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. Il s'agit notamment de la réanimation d'urgence du patient en état de choc critique, Ebola et choc septique, de l'optimisation de la minute d'or en chirurgie d'urgence, de la prise en charge des malades avant qu'ils n'atteignent un centre hospitalier. Il y a aussi les défis logistiques pour la prise en charge des malades. Pour le coordonnateur général du CIARU, cette 5e édition se penche essentiellement sur l'amélioration de la qualité des soins et la réduction du délai de prise en charge d'un malade. Docteur Foreman Mabala.
L'innovation a de véritables valeurs que lorsqu'elle permet d'améliorer la qualité des soins, de réduire les délais de prise en charge, de renforcer la sécurité du patient et de rendre les soins critiques accessibles au plus grand nombre. C'est précisément cette rencontre entre l'expertise humaine, la science, l'organisation des soins et l'innovation que cette 5e édition du CIARU souhaite promouvoir.
Ces assises vont durer 3 jours. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
À Bounia, en Ituri, les structures sanitaires enregistrent une baisse sensible de la fréquentation des patients depuis la recrudescence de l'épidémie d'Ebola. De nombreux habitants disent craindre d'être contaminés dans les centres de santé ou d'y être déclarés positifs à la maladie. Une situation qui favorise les recours à l'automédication avec des risques pour la santé des malades et pour la lutte contre l'épidémie, alertent les professionnels de santé. Ils appellent la population à consulter rapidement en cas de maladie. Le reportage d'Alida Kachweka.
Au centre de santé Aéro à Bounia, le service continue de fonctionner malgré l'épidémie d'Ebola. Mais la fréquentation a fortement diminué. Selon l'infirmière titulaire de cette structure, le centre recevait avant l'épidémie d'Ebola jusqu'à 200 patients par jour. Aujourd'hui, il n'en accueille plus qu'une quarantaine, difficilement d'ailleurs. Chantal Bourreguéa.
Le centre de santé n'est pas fréquenté comme auparavant. Nous faisons même 2 à 3 jours sans malade, bon, à cause de l'épidémie. Donc la fréquentation a diminué sérieusement, même dans des activités préventives.
Plusieurs habitants évitent les structures de santé par crainte d'être contaminé ou déclaré positif à Ebola. Les soignants mettent toutefois en garde contre les risques liés au retard de consultation et rappellent que des dispositifs de tri et de prévention sont en place dès l'arrivée des patients. Chantal Bourguet a encore.
Nous trions les malades par rapport aux signes de définition des cas. Il s'agit de céphalées denses, fièvre, maux de tête, maux de ventre. Si la personne vient avec ça, on ne les mélange pas avec les autres malades. On l'isole un peu. Nous avons notre salle là à l'extérieur, comme notre salle d'isolement. Nous les mettons là-bas.
L'objectif est d'identifier rapidement les personnes présentant des symptômes compatibles à Ebola, de limiter le risque de transmission et de les orienter, si nécessaire, vers les structures spécialisées. De Bounia, Ali Dakachueka, Radio Okapi.
En République démocratique du Congo, tout TikToker, auteur d'insultes et autres dérapages sera traqué et également jugé en flagrance. Ainsi a ordonné hier lundi à Kinshasa le procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vondé a instruit les officiers de police judiciaire de rechercher activement les auteurs d'infractions commises sur les réseaux sociaux, notamment les insultes, les propos calomniés et autres dérapages. Ces propos ont été recueillis par Lievin Mwinga.
Je ne lésinerai pas sur des mesures d'ordre disciplinaire au cas où je venais de constater une complicité, une légèreté ou un laisser-aller. Je voudrais attirer toute votre attention pour que vous preniez à cœur les fonctions d'officier de police judiciaire qui sont les vôtres, en ce que vous êtes chargé principalement à rechercher, à constater et à faire œuvre de répression de tous les faits infractionnels. Ici, l'attention est attirée sur les faits infractionnels au code du numérique. À ce sujet, j'ai pris une instruction vous demandant de pouvoir vous mettre à la tâche et de vous saisir d'office, je dis bien d'office. N'attendez pas qu'il y ait une plainte. Et c'est cela, répondre à la mission légale qui vous est dévolue, de rechercher. Donc vous vous saisirez d'office de ces infractions et au besoin et dans la mesure du possible, vous transmettrez vos procès-verbaux au ministère public pour les tenues des audiences en flagrance.
Et sous un autre chapitre, Franck Kayombo, expert en communication digitale, appelle à la mise en place d'une cellule de régulation des publications sur la toile en République démocratique du Congo. Dans une lettre ouverte adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, il explique que sa démarche vise à préserver les valeurs sociétales. Ces créateurs de contenus digitaux estiment également qu'en surveillant les publications diffusées sur ces plateformes, le pays pourra mieux protéger les communautés contre la désinformation, les discours haineux et les contenus inappropriés. Franck Kayombo est au micro de Blaise Dongala Mayanda.
En tant que spécialiste en communication, j'ai fait au moins part de ma proposition de créer une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des réseaux sociaux en RDC. Bon, ça sera une structure qui sera créée au sein du CESAC. Peut-être on va engager des animateurs qui vont accompagner cette mission à gérer cette structure. La cellule sera créée aussi en tenant compte des lois en vigueur en RDC. Par rapport au numérique, nous avons proposé afin que les CESAC puissent voir dans quelle mesure la création de cette cellule peut être possible. Si c'est pas possible, nous allons voir comment nous pouvons alléger les choses. Par exemple, nous limitons à la gestion ou à l'éducation en termes de l'utilisation des réseaux sociaux en RDC. Parce que le problème n'est pas seulement de sanctionner, mais d'abord d'éduquer la jeunesse, la population sur un bon usage des réseaux sociaux. J'ai prévu aussi un programme national d'éducation sur un bon usage des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, la meilleure solution n'était pas de supprimer, mais d'éduquer ou de renforcer une bonne utilisation des réseaux sociaux en RDC.
Notez que le ministère de la Justice réaffirme la rigueur de l'action publique contre les actes commis sur les plateformes numériques TikTok, Facebook, X et autres en République démocratique du Congo. Par ailleurs, à Bandundu, dans la province d'Ikwilu, une formation consacrée à la prévention et à la réponse aux cas d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel en milieu scolaire s'est ouverte hier lundi. Cette session vise à renforcer les capacités des participantes issues du secteur éducatif sur les mécanismes de prévention, d'écoute, d'orientation et de prise en charge des cas d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel dans les établissements scolaires. Reportage de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur provincial de l'éducation de la province éducationnelle Kwilu 1, Hervé Mungeta. Il a insisté sur l'importance de cette formation pour renforcer la protection des élèves et promouvoir un environnement scolaire sûr et respectueux.
Je demande à tous les participants d'être très attentifs parce que cette matière est très importante dans notre sous-secteur et qu'à la fin de cette formation, nous soyons à même de faire le travail sans couac et que notre province puisse s'imprégner de cette réforme du ministère de l'Éducation nationale.
Durant cette session, les participants sont outillés sur plusieurs thématiques, notamment l'approche centrée sur les survivantes et survivants, l'écoute active, le soutien psychologique des bases, ainsi que l'orientation des cas vers le service compétent.
Actualité internationale.
C'est désormais officiel, le président sortant Hakainde Hichilema est réélu dès le premier tour président de la Zambie avec 60% des voix, a annoncé la commission électorale. Une réélection après son arrivée au pouvoir en 2021. Porteur des réformes fortes durant son premier mandat, notamment dans le secteur économique, Hakainde Hichilema, 64 ans, n'a pas totalement convaincu la population qui attend les répercussions de ces mesures. Les Zambiens lui ont donc massivement fait confiance pour un nouveau mandat au terme d'une élection marquée par des heurts.
L'invité.
L'invité de ce journal est le docteur Ngereza, médecin physicien et encadreur senior aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il parle de l'œdème, un gonflement d'un tissu ou d'un organe causé par une accumulation anormale de liquide dans l'espace intercellulaire. Souvent associé dans certaines communautés à des croyances ou à des causes héréditaires, il est considéré par la médecine comme une manifestation clinique pouvant être prise en charge à condition d'en identifier l'origine. Pour en savoir davantage, le docteur Ngereza, médecin, physicien, encadreur, senior, clinique universitaire de Kinshasa, s'entretient avec Jean-Marie Kanaimba.
Docteur Ngereza, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marie.
Vous êtes médecin, physique, encadreur, majeur. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce que l'œdème et comment se manifeste-t-il chez une personne?
Un œdème, en des termes beaucoup plus simples, c'est une accumulation des liquides de manière anormale dans les tissus. Et ça se traduit par un gonflement.
Quels sont les principaux facteurs ou maladies pouvant provoquer l'apparition d'un œdème? Chez un patient.
Il faut savoir, l'œdème, c'est généralement un trouble circulatoire. Ça peut être dû à plusieurs problèmes. Ça peut être une insuffisance cardiaque. Ça peut aussi être une insuffisance rénale, un déséquilibre hormonal, aussi une hypomobilité. Lorsque la personne ne bouge pas suffisamment, cela peut également entraîner des œdèmes. Chez les femmes enceintes également, ça peut également se manifester par des œdèmes. Ce que nous pouvons voir chez les enfants malnutris, chez les coucheurs courts. Et aussi, il présente des œdèmes.
L'œdème est-il transmissible d'une personne à une autre?
Bon, comme je disais, l'œdème n'est pas vraiment une maladie, c'est un symptôme ou un signe qui explique d'autres maladies. Donc, on ne sait pas dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, que l'œdème est transmissible.
Est-ce que l'œdème a un impact psychologique, physique ou sociologique?
Bon, c'est un vécu, un ressenti de chacun. C'est un inconfort. Je pense que tout inconfort peut avoir un impact du point de vue psychologique. À mon humble avis, étant donné qu'il y a un inconfort, la personne ne se sentira plus la même qu'elle a toujours été. Cela peut avoir un impact psychologique, social, oui, parce que ça diminue également sa mobilité. Il ne sait plus, et même du point de vue esthétique, vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude de porter ses chaussures fermées ou ses sandales avec des pieds gonflés, vous voyez qu'il ne sait plus porter ce qu'il a l'habitude de porter. Donc ça peut aussi avoir un impact de ce point de vue-là, oui.
En tant que symptôme ou maladie, est-ce qu'il y a des traitements efficaces contre l'œdème?
Oui, comme je le disais, c'est un symptôme. Donc, la prise en charge doit d'abord être étiologique. Il faudrait qu'on puisse savoir cet œdème est dû à quoi. Dès lors qu'on arrive à savoir l'origine de l'œdème, le traitement devient facile. Parmi les mesures, nous conseillons généralement à la personne, surtout pour les gens qui sont hypomobiles, qui ne bougent pas assez, de marcher.
On peut considérer que l'œdème peut être héréditaire.
Tout dépend de la maladie qui cause l'œdème. Si cet œdème est causé par une maladie qui est héréditaire, bon, on peut supposer dans ces cas, ça ne peut pas se transmettre de père à l'enfant. Mais si il y a une maladie dont souffre chaque membre de la famille, ça peut être de l'hypertension, ça peut être du diabète, ça peut être ça, ça peut expliquer. Mais dire que l'œdème en soi soit héréditaire, non.
Comment prévenir l'aggravation de l'œdème?
Déjà, il faudrait noter quelques signes de gravité. Donc, vous avez l'œdème comme un symptôme, gonflement chez certains au niveau des pieds. Mais si cet œdème s'accompagne d'un essoufflement, ça ce sont déjà des signes de gravité, il faudrait nécessairement aller voir un médecin. Si cet œdème s'accompagne de douleurs ce sont au niveau thoracique. C'est également, il faut déjà aller voir un médecin. Si l'œdème se traduit par la douleur au niveau de pression, donc au niveau de la zone qui est démaciée, là également, il faudrait aller voir un médecin.
Pour terminer, quel message de sensibilisation souhaiteriez-vous adresser à l'ensemble de la population congolaise?
De manière préventive, ce qu'il faut savoir, la plupart des gens qui voient les œdèmes apparaître sur leurs pieds ou une partie du corps doivent d'abord examiner en premier lieu. Il doit voir soit les généralistes, et le généraliste, à son niveau, verra vers quel spécialiste envoyer ou référer le malade en fonction des antécédents qu'il aura dépouillés ou encore dénichés auprès du patient. Et chez les patients eux-mêmes également, ils doivent toujours avoir la mentalité de bouger, parce que le mouvement est très important. Il n'y a pas meilleur médicament actuellement que le mouvement. Il faudrait marcher et tout ça, ça améliore la circulation.
Docteur Grisa, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie également.
Notre invité était le docteur Ngereza, médecin physicien et encadreur senior aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il s'entretenait avec Jean-Marie Kanaimba. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par Alain Irung, Dédoné Nyangasa, la mise en onde. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.